écoutez Radio Panique, nous sommes mercredi, il est 18h, c'est l'heure de la vie électrique. Bonjour à toutes, bonjour à tous, la vie électrique. On parle d'imaginaire, de science-fiction, de fantastique, de littérature de genre, de diverses choses comme cela. Et nous sommes aujourd'hui en compagnie de Benoît.
Mais bonjour, Pierre.
Et c'était pas l'indicatif habituel.
Non, ça change un peu. Hein.
Oui, c'est parce que...
C'est notre ambiance tout de suite, là.
Ouais, c'est parce que vous aurez tout de suite reconnu l'ambiance typique de Bologne.
Voilà.
Aujourd'hui, nous allons à Bologne. Le groupe qu'on entendait, c'était Bologna Violenta. Tu peux nous en dire un petit mot, peut-être ?
C'est un groupe qui est en fait une personne, une seule personne, qui vient de, comme son nom l'indique, de Bologne, et qui a une manière de faire les choses que j'aime encore assez bien. C'est très bricolé. C'est bricolé avec pas grand-chose, quelques sampleurs, des grosses boîtes à rythme un peu violentes. Comme ça, et une thématique bien tenue, c'est-à-dire que tous les albums, les uns après les autres, ont comme sujet des faits divers, et chaque morceau est un fait divers, attaque à main armée, violence, meurtre, etc. Ici, c'est un morceau qui était attaque d'une patrouille de carabinieri, si je me souviens bien, à Castelmaggiore, et voilà, c'est un petit peu toujours dans ce genre de tonalité, un peu Ennio Morricone hardcore, comme ça, avec de belles cloches qui sonnent le glas.
Effectivement, ça fait partie d'une série de morceaux dont le titre commence chaque fois par 20 avril 1988, Castelmaggiore.
Voilà.
On ne sait pas très bien ce qui s'y est passé, mais voilà.
La violence.
Deux points communs avec un des sujets du jour, Bologne et la violence, puisque on va notamment parler aujourd'hui de Valerio Evangelisti.
Et pour une bonne et une mauvaise raison.
Bah, d'abord parce qu'on l'aime bien, c'est plutôt la bonne raison. La mauvaise raison, c'est qu'il est très récemment décédé. Je pense que c'était le 18 avril. On n'en a pas énormément parlé dans la presse francophone.
Un petit peu.
Il y a un article sur le site de Libé, j'ai vu deux, trois choses.
Oui, très discret, effectivement. Ce n'est pas la star que c'est chez lui, par exemple.
Voilà, et ça n'est plus non plus la star, parce qu'on pourra peut-être en parler, mais il a eu une période de fortune littéraire en France, ce qui n'est plus vraiment le cas aujourd'hui, et c'est bien dommage. À part ça, on devrait parler aujourd'hui de Kim Stanley Robinson, de nos sujets traditionnel, sauf voilà, que pour une fois, ce n'est ni Sarah ni moi qui en parle, c'est toi.
Voilà.
Ça change une fois, comme dirait mon arrière-grande-tante.
C'est une fois de chose.
Et on parlera peut-être de Enrique Villamata si on a le temps, sinon ce sera pour la prochaine fois. On parlera peut-être de White Knight, la nouvelle série télévisée Marvel, dont j'ai regardé les 4 premiers épisodes, et figurez-vous que c'est bien. Mais on commencera tout ça avec Valerio Evangelisti. On s'écoute un deuxième morceau que
on
tu as choisi pour tourner autour de Valerio.
Oui.
In Verita Vitico, le Fuzz Orchestra.
Alors cette fois-ci, c'est le Fuzz Orchestra. Alors c'est un groupe qui, lui, vient de Milan, par contre, rien à voir. Mais bon, à part ça, le reste, c'est un groupe qui fait, comme Bologna Volenta, une espèce de hardcore très italien, en fait. C'est quelque chose assez courant là-bas. Soit instrumental, soit... dont les vocaux sont remplacés par autre chose, des samples, et dans le cas de Fuzz Orchestra, très très souvent des extraits de films, des extraits de films choisis. Ils ont une espèce de fascination pour Elio Petri, par exemple, qu'ils ont mis un petit peu à toutes les sauces. Et ici, c'est là, on parle de Moyen-Âge, de mysticisme, d'exorcisme, d'inquisition, et donc je me suis dit bon bah allez. Ça me semble tout à fait pertinent pour introduire le sujet de Valerio Evangelisti.
On ne sait pas du tout de quel film c'est extrait d'ailleurs.
Si quelqu'un le sait.
Ça nous évoque message. Des choses, mais on n'identifie pas. Donc si quelqu'un a la réponse, qu'il n'hésite pas à nous écrire.
Voilà, il n'y a rien à gagner, mais
nous lui répondrons.
Notre considération.
Voilà. Fuzz Orchestra, donc.
Razza di vipere! Chi vi ha insegnato a fuggire all'ira imminente? Razza di vipere! Date frutti degni di ravvedimento! Già la scure è alla radice degli alberi. Ogni albero che non dà frutto buono è tagliato e gettato nel fuoco. Io vi batteggio nell'acqua a penitenza. Ma colui che viene dopo di me è più potente di me. Egli vi batteggerà in Spirito Santo e fuoco. E monderai interamente la tua aia e raccoglierai il grano tuo nel granaio, ma la pula la brucerai in un fuoco inestinguibile! Fatemi lontano da me, Satana! Tu mi sei di scandalo!
perché pensi come gli uomini, non come Dio. Nessuno può servire a due padroni. Voi non potete servire a Dio e al denaro. In verità io vi dico che i pubblicani e le meretrici vi precedono nel regno di Dio. In verità vi dico, tutto ciò ricadrà su questa generazione.
J'écoutais plus vraiment ce que c'est de vous raconter, mais je pense qu'on nous menaçait de tous les feux de l'enfer.
Oui, c'était, voilà, c'était comme ça.
Oui. Et c'est tout à fait à propos. Hein.
Oui, ça nous amène à notre sujet, mais alors, comme dans une émission radio, par exemple.
Mais ouais, donc Valerio Evangelisti, écrivain bolognais, écrivain très important en Italie, hein, très très connu, qui a publié une bonne tripotée de livres, qui par ailleurs... a aussi milité politiquement, hein. C'est un militant anticapitaliste assez actif pendant toute sa vie. Décédé donc récemment, ça fait un petit moment qu'il avait des problèmes de santé. Hein. Je pense qu'il n'allait pas très très bien, mais il continuait d'écrire et de produire. Sa grande création, celle qui est la plus connue, y compris pour les lecteurs francophones, c'est un personnage d'inquisiteur, Nicolas Emmerich. On est donc au XIVe siècle, en Espagne. Et Nicolas Emmerich, qui est d'ailleurs un inquisiteur qui a réellement existé.
Effectivement, mais alors, basé sur un personnage.
Il y a quand même quelques détails à ajouter. On va dire que c'est pas spécial.
On peut dire que ça s'écarte assez vite.
D'ailleurs, j'ai trouvé ça assez drôle sur dans l'article Wikipédia sur Nicolas Emmerich le vrai, celui qui a existé. Mmh. On note que le personnage est aussi le personnage principal d'une série de romans policiers italiens.
Oula.
Alors non, ce ne sont pas des romans policiers. On s'écarte quand même encore un peu plus de la vérité historique, puisque même si au départ en France ça a été publié dans une collection de fantasy, ce n'est même pas non plus uniquement de la fantasy, c'est carrément une sorte de mélange de tout.
Ouais. Science-fiction, fantasy. Quelque chose typiquement évangélisti d'ailleurs, ça.
Oui, typiquement évangélisti et d'assez atypique, enfin qui se pratique peut-être un peu plus aujourd'hui, mais quand il commence à publier les aventures de Nicolas Emmerich, je ne suis pas certain que le mot soit le plus approprié, c'est pas si courant que ça.
Non, en 94, c'est encore un peu timide.
Et donc, un inquisiteur, mais un vrai inquisiteur. Un inquisiteur avec tout ce que ça peut avoir de relativement antipathique. Une des caractéristiques de ce personnage, c'est aussi que c'est un protagoniste dont le moins qu'on puisse dire est qu'il n'est pas aimable.
Non. On est loin du nom de la rose, on est dans les vrais inquisiteurs méchants, comme on les imagine. Bah, en vrai, en fait.
Oui, avec une certaine violence quand même, des côtés assez sordides. Il n'est pas tolérant, il n'est pas progressiste du tout. On peut s'imaginer, enfin, avec ce qu'on sait sur le Nicolas Emmerich historique, jusque-là, c'est juste.
Jusque-là, c'est... Oui.
Puisque ça avait l'air d'être un des inquisiteurs les plus forcenés, on va dire, dans l'histoire de l'Inquisition.
Ouais.
On peut aller jusqu'à cruel, voilà, c'est celui qui voulait pouvoir resoumettre à la question des gens qui avaient été déjà soumis à la question une première fois, alors que normalement, c'était pas...
Oui, mais on ne sait jamais.
Le pape ne voulait pas, mais lui voulait trouver des moyens juridiques à l'intérieur de...
Plus catholique que le pape.
Voilà. Donc. C'est ce genre de personnage-là. Donc, pas sympathique du tout. Qu'est-ce qu'il vient faire dans une histoire de science-fiction et de fantasy? Est-ce qu'on peut expliquer ça en quelques mots ou ça va être compliqué?
C'est que ça ne se passe pas uniquement au XIVe et qu'il y a toute une série de variantes et de choses qui lui arrivent qui le propulsent à d'autres époques où lui-même ne comprend pas très très bien ce qu'il fout là. Et... quelque part, il ne change pas trop son fusil d'épaule, si je puis dire, son arquebuse d'épaule, bref. Mais il se retrouve dans des situations où il a un petit peu des capacités. C'est quelqu'un de très, très intelligent, très fin, très... mais il est quand même un peu propulsé dans des aventures, là. Pour le coup, là, on passe au mode aventure. Et c'est un truc qui va se poursuivre pendant tout le cycle. Il faut quand même savoir que c'est un cycle qui est assez long, puisqu'il y a 12 volumes déjà, à ce jour, de ce cycle. Et ça va continuer, cette espèce d'aller-retour, mélange de genres qui, pour le coup, est futuriste, science-fictionnesque, comme on peut l'imaginer, et historique, mais avec un twist, où les puristes auront repéré, évidemment, les endroits où ça coince un petit peu sur la vérité historique, mais... Voilà, pour le reste, l'ambiance générale de l'époque est assez bien reproduite. Et donc, c'est autre partie qui est effectivement un petit peu compliquée à résumer, qui vient s'ajouter à ça et perturber un petit peu toute la continuité.
Ce côté à la fois mélange d'éléments de recherche historique avec des choses beaucoup plus étranges ou fantaisistes ou imaginaires, tout ça sur des histoires qui sont vraiment des histoires au long cours, ça a aussi fait ranger Valerio Evangelisti dans différentes tendances littéraires. Alors on a d'abord parlé de New Weird italien, qui serait différent du New Weird anglo-saxon, mais aussi le New Italian Epic.
Oui.
Terme inventé par
par nos amis des Wooming.
Oui, un des Wooming, je ne sais
le
plus
Wooming
lequel.
Le Wooming 1, oui.
Ça se range un peu là-dedans, effectivement, ça pourrait.
Oui, tout à fait.
Et aussi ce truc qui est vraiment très impur en termes de genre littéraire.
Où, clairement, on raconte quelque chose, on décrit des situations, comme on a toujours parler de la science-fiction comme étant un commentaire sur l'actualité, sur base d'autres choses, la nouvelle épopée italienne, le nouvel épique italien, c'est un petit peu se baser aussi sur des faits historiques, retracer les liens avec le présent, ou faire des comparaisons, etc. Et surtout, c'est mélanger un petit peu tous les genres, sortir de cette idée qu'un écrivain de science-fiction, il fait de la science-fiction, un écrivain de polar, il fait un polar, et qu'un polar, ça ne parle pas d'histoire, et qu'un livre d'histoire, ça ne peut pas être un essai. Ici, c'est tout en même temps. Et tout au long de sa grande carrière, Evangelisti va faire un petit peu ce genre de choses. Mais chaque fois, avec c'est quelqu'un qui aime les cycles. Donc, il a vraiment toute une série de répertoires. Donc, il y a le cycle Emmerich qui est Inquisition, 14e siècle, mais il y a aussi un cycle qui parle des pirates dans les Caraïbes. Il y a un cycle qui parle de la naissance du mouvement ouvrier en Italie. Un autre cycle qui parle de la naissance du mouvement ouvrier aux États-Unis. Qu'est-ce que j'oublie ? Il y a un cycle qui est consacré à un personnage qui s'appelle Pantera, qui est quelque chose de très étrange qui se passe plutôt à l'époque de la guerre de sécession. Qu'est-ce qu'on a encore ? Voilà, je crois qu'on a déjà fait un petit peu le tour de tous les cycles. Et dans chacun, il y a une faille. Il y a toujours un moment où ça dévie.
Mmh. Alors, une bonne partie de tout ça est traduit en français. Pas tout, mais quand même beaucoup de choses. Avec quand même, on peut le dire, des fortunes diverses. Hein. On le disait au départ, il a été lancé en traduction française par l'éditeur Rivage, qui est un éditeur assez important et assez bien installé, qui avait à l'époque une collection fantasy, je suis pas certain qu'elle existe toujours d'ailleurs, et c'était une collection dirigée par Doug Edline. Ça a bien marché, ça a vraiment bien marché, notamment les premiers volumes de la saga Nicolas Emmerich.
Et de Nostradamus, qui est le premier qui a été francisé,
j'ai dit, ont traduit en français. Réédité en poche à de multiples reprises, ça, on en parlait vraiment pas mal, on le trouvait en quantité assez abondante chez les libraires. Alors, il est toujours édité en français aujourd'hui, mais quand même avec une visibilité nettement moins grande. Alors, ça n'est plus chez Rivage, maintenant c'est chez un éditeur beaucoup plus petit qui s'appelle La Volte, qui continue de traduire. Ils y sont allés jusqu'au 12e Emmerich, donc ils vont jusqu'au bout. Mais les derniers volumes n'ont pas eu droit à d'édition en poche pour le moment. Il y en a quelques-uns qui ont été repris dans une intégrale en deux gros volumes qui est paru au livre de poche. Mais donc ça, c'est les volumes 1 à 5 et puis 6 à 10. les deux derniers donc à la Volte. Et voilà, un succès un peu moins grand, j'ai l'impression quand même aujourd'hui pour le public francophone, mais ça pourrait revenir. Mais à l'époque, c'était vraiment au début de l'édition de Emmerich. Il y a même eu Delcourt qui a publié à un moment une adaptation en bande dessinée de Nicolas Emmerich.
Qui était, ça, c'était peut-être déjà une adaptation du Fumetti qui était paru en Italie, mais
je ne sais plus
s'il y a eu toute une série de produits dérivés entre guillemets en Italie, mais je ne sais pas si la version française est dérivée de là ou dérivée de. À suivre.
Voilà. On regrette évidemment qu'aujourd'hui Giorgio et Sarah ne soient pas là avec nous pour corriger toutes les bêtises qu'éventuellement on dit sur antenne.
Oui.
Mais bon, voilà, c'est comme ça.
C'est des choses qu'on aurait oubliées.
L'équipe de La Vie Électrique fait de son mieux.
Allons. On va y arriver.
On peut aussi noter son amour pour la musique extrêmement violente. On aurait pu faire une playlist entièrement métal.
Il y aurait eu franchement moyen.
Il y aurait matière à, puisque il s'en inspire à de multiples reprises pour créer des personnages, pour titrer des nouvelles ou des romans. Et tu as là en main.
Et j'en ai en main. Donc
un recueil qui s'appelle Metal Urlante.
Metal Urlante,
qui est traduit en français par Metal Hurlant, évidemment.
Oui, et qui est dédié à la fois à Metal Hurlant, le magazine, mais aussi au Metal Hurlant lui-même, qui est la musique, toute la musique qu'il aime, et dont les chapitres sont assez explicites aussi, puisque nous avons Venom, Pantera, Sepultura et Metallica. Donc voilà, on fait assez bien. Enfin, on a une petite idée de ce qu'il écoute chez lui. Ça, c'est pas trop étonnant d'ailleurs, vu le personnage, qui a l'air tout gentil, mais quand même plutôt orienté vers ce genre de violence. Et qui met un petit peu tout ça à toutes les sauces. Donc on a dit Pantera, c'est devenu un personnage qui a son propre cycle. Et voilà, il y a des allusions un petit peu à la musique dans d'autres œuvres aussi. Il y a un roman qui s'appelle Black Flag. Voilà, ça arrive un petit peu à tous les coins de son œuvre. Un petit peu moins chez les inquisiteurs espagnols du 14e. Et encore. Et voilà. Ce qu'il faut préciser peut-être, c'est que dans les choses qui moi m'intriguent chez Evangelisti, c'est son amour pour les personnages négatifs. C'est-à-dire qu'il fait pas vraiment de héros ni de anti-héros, mais il fait vraiment le contraire, le contre-héros. Tous ces personnages, tous ces romans sont racontés, quasiment tous, à la première personne par le personnage le plus détestable de l'histoire. Et dans chacun, c'est vraiment une espèce de volonté de faire un truc qui va mal finir, vu par le personnage qui est le plus criminel de la bande. Alors, on a le personnage d'un inquisiteur, mais on a Pantera qui est un chasseur de tête, à ses heures perdues, c'est vraiment son métier. On a un briseur de grève américain, un petit peu la même chose en Italie, dans le pendant européen de son histoire du mouvement ouvrier. Et c'est vraiment une espèce d'obsession comme ça d'aller vers le plus noir et de montrer des situations un peu limite, un peu borderline, chaque fois raconté par la personne qui, pas vraiment la personne qui pète les plombs, parce que ce sont généralement des gens qui restent très très froids, mais qui vont utiliser la violence maximale pour sortir d'une situation. Et c'est vraiment une marque de fabrique, je dirais, de chacun de ces romans, et ça rend parfois la lecture un peu compliquée. Il y a des moments qui font vraiment grincer des dents ou qui font vraiment qui font mal, quoi, qui font mal à lire. Et il y a une espèce de volonté comme ça de bousiller l'habitude qu'on a d'arriver à un petit peu sympathiser avec le personnage principal. Ici, c'est chaque fois impossible, en fait. On suit les aventures d'Emmerich en disant « Ah, ça va, il s'en est tiré », et puis on se dit « Ouais, enfin, en même temps, ça aurait peut-être été mieux que cette fois-ci, il y passe ». Et en fait, non, on suit des personnages qui ont chaque fois cette espèce de destinée de personne qui s'en sort à tous les coups, mais qu'on va haïr tout au long du roman, voire du cycle entier.
Ce qui depuis est devenu une sorte de cliché de la fiction populaire, hein, notamment dans les séries télé, des séries télé à héros pas du tout héroïques, bien au contraire, ou qui sont centrés autour de la crapule de l'histoire. C'est devenu vraiment monnaie courante. C'était pas forcément le cas à ce moment-là quand il a lancé la série. C'est un tournant culturel aussi. On commence à s'intéresser aux horribles et à vouloir être un peu dans leur tête.
Moi, je pensais un petit peu à des comparaisons comme le cinéma de Scorsese, par exemple, qui a aussi une flopée de scénarios où on suit le personnage principal qui est le pire de chacun des films, et on est dans sa tête, c'est lui qui raconte et c'est lui le narrateur, et c'est chaque fois on est un peu obligé de le suivre à travers toute sa descente ou son succès parfois aussi, comme dans le Parrain, pareil, un petit peu le même genre d'idée, on suit la face noire de chacune des histoires. Et c'est voulu, et c'est assez étrange parce que on l'a dit un petit peu en commençant, c'est quelqu'un qui a des positions politiques assez claires, assez à gauche, assez progressiste, voire très combatif, et tous ces personnages sont exactement l'antithèse de ça. C'est vraiment les personnages les plus autoritaires, conservateurs, les plus pourris de la situation examinée, et c'est même pas un contraste entre le bien et le mal, c'est vraiment juste il y a le mal et il y a des gens qui vont en être victimes et puis c'est tout. Et ça rend la lecture parfois douloureuse comme ça.
Oui, mais quelque part c'est cohérent avec son appréciation de l'esthétique de la musique métal qui tourne autour de thématiques négatives sans vouloir forcément la transfigurer en quoi que ce soit. C'est, voilà, il y a une sorte de plaisir dans le négatif.
Plaisir du noir, comme ça, oui, tout à fait. Et voilà, il s'explique de ça dans plusieurs interviews. Bon, on ne va pas citer toutes les interviews qu'il a pu donner, mais il disait par exemple que la science-fiction et le polar étaient les deux premières littératures à avoir se passer définitivement du happy ending, de la fin heureuse, et d'avoir vraiment pouvoir faire raconter quelque chose jusqu'aux conséquences les plus apocalyptiques sans avoir un petit bouquet de fleurs à la fin et d'arriver à sortir de là. Bon, ça vaut ce que ça vaut, oui, et c'est
sûr.
Pas...
Je suis pas sûr qu'il ait raison là-dessus, mais bon.
Je le cite.
Il y a une autre série dont tu voulais parler aussi, de lui, qui est plutôt sa série américaine.
Oui.
On va en parler après une petite pause musicale où on reste plutôt dans l'ambiance 14e siècle, torquemadienne.
Un peu, oui. Alors on serait presque plutôt dans les conquistadors, effectivement, je pense. Conquistadors et clarinette.
Conquistadors et clarinette, c'est le programme avec Radio Galacia. La pyramide di sangue.
We'll be right back.
Vous aurez constaté que nous n'avons pas cédé à la facilité qui aurait consisté à une programmation musicale à base de Sepultura, Pantera, Metallica, Venom. Mmh. Mais nous n'avons pour autant pas fait dans la légèreté.
Voilà, c'est pas forcément. Voilà, c'est subtil mais massif. Ou l'inverse.
On est toujours chez Valerio Evangelisti.
Alors, bon, comme on disait en commençant, c'est une œuvre qui est un peu expansive, un peu longue, donc on va pas parler de tous les cycles Nostradamus, Pantera, etc. Mais je voulais quand même parler un petit peu d'un cycle que j'ai trouvé assez étonnant et assez intéressant, puisque il s'écarte, une fois de plus, du canon science-fiction, et là, pour le coup, il y a quasiment rien de ni de fantasy ni de science-fiction. Par contre, on est dans le roman historique et c'est une série qui se passe aux États-Unis dans le milieu des immigrés italiens, et ça me semblait assez intéressant parce que ça remet toute une série de choses en question quand on parle immigration, États-Unis, Italie. Et on a un petit peu chaque fois l'impression qu'on va parler uniquement de mafia et de transposition de la Sicile dans les bas-fonds de New York ou de Chicago. Et en fait ici, il y a un peu de ça quand même. Pas dire le contraire, mais il y a surtout une histoire des États-Unis qu'on raconte assez peu, y compris aux États-Unis. On commence seulement un petit peu à faire cette histoire-là, qui est l'histoire des mouvements ouvriers et des mouvements socialistes, communistes et anarchistes aussi, qui sont arrivés aux États-Unis et qui ont eu une espèce de lutte acharnée contre le gouvernement, mais aussi contre les patrons, contre les gens qui donnent du travail, j'allais dire, ça c'est italien, mais
contre les organisations criminelles aussi.
Contre les organisations criminelles.
Qui souvent les noyautaient.
Natives ou autres. Et ici, un des bons exemples, c'est Noi saremo tutto, nous serons tout, qui se passe sur les docks. Plusieurs endroits donc où on suit quelques personnages et on suit les tentatives pour fonder un syndicat dans le port, dans le milieu des dockers, et on suit un personnage qui est forcément méchant, un vilain bonhomme, qui va un petit peu illustrer tout ce qui aurait pu arriver, c'est-à-dire qu'on suit plusieurs personnages qui sont du côté des futurs syndicalistes, qui sont du côté des ouvriers, qui ont un héritage socialiste et communiste importé d'Europe, et on a des gens qui sont tout aussi italiens, mais implantés dans d'autres formes de progrès personnel, c'est-à-dire s'intégrer le plus vite possible auprès des patrons faire le coup de main quand il s'agit de faire le coup de main pour empêcher justement la formation de ces syndicats ou l'union des ouvriers, etc. Et c'est un roman qui montre vraiment toute cette histoire américaine un petit peu occultée, qui ressort un petit peu maintenant. On refait toute une série de fiction et de reportages sur le cas, mais ici on a vraiment un bel exemple de monter en puissance de quelqu'un qui n'était pas mafieux à la base, qui venait plutôt du milieu des dockers normaux, mais qui va très très vite foncer dans la trahison de classe. Parlons-en, allons-y carrément, et s'associer aux pires anti-syndicalistes du lot. Donc, on parle un petit peu des Pinkerton qui reviennent assez souvent. Pinkerton, donc c'était cette espèce de milice privée organisée entre autres par le patronat. Officiellement, c'était des gardiens de sécurité. Mais c'était des gardiens de sécurité lourdement armés qui doublaient leur salaire avec un boulot de chasseur de tête, et qui étaient généralement les casseurs de grève, les gens qu'on envoyait tirer sur les mineurs.
Dans la fiction populaire, ils sont assez souvent représentés comme de braves détectives privés, mais c'est un peu plus compliqué que ça quand même.
Tellement élégants avec leur Impère et leur Winchester, mais derrière tout ça, il y a juste en gros des briseurs de grève. Et ce qui est assez intéressant, c'est que le bouquin fait exactement le contraire des romans de mafia habituel, c'est-à-dire qu'il ne romance pas du tout le mafiosi comme étant un rebelle, comme étant quelqu'un de libre qui a choisi sa vie, nanana, mais le montre comme étant juste une crapule à la solde du patronat contre sa propre classe, contre sa famille, contre les gens qu'il connaît, contre ses anciens camarades de travail, et on a...
Mais tout ça vu de leur point de vue.
Voilà.
Et suivant le même principe que dans ces autres... ouvrage.
Très exactement, avec les mêmes, enfin pas les mêmes, hein, on va pas dire que c'est pas une répétition, mais il y a un petit peu la même tentation de filer dans des scènes de torture tout à fait ignobles, des scènes de manipulation, de grands mouvements d'arnaque et de violence, etc. Et ce côté autre histoire de l'immigration italienne. Un peu mafia, mais pas mafia, hein. Et mais aussi de replacer le mouvement ouvrier était quelque chose que bon voilà, je connais pas énormément à part les Wu Ming qui ont un petit peu cette tendance à faire de la fiction historique dans ce genre-là. Et donc comme je le disais, il y a une version qui se passe aux États-Unis, qui est le cycle américain, et il a fait une autre série de 3 volumes à l'heure actuelle. Enfin, oui, ce sera 3 volumes, qui se passe en Émilie-Romagne, plus ou moins au début du siècle, et qui suit un petit peu le même genre, ici, lutte contre les propriétaires terriens, etc., etc. Voilà.
Tu peux nous donner les titres ?
Alors, les titres, je vais essayer de les trouver en français et pas dire de bêtises. Donc, le cycle des pirates, ce n'est pas ça. Ah bah voilà, j'ai tout mélangé dans mes feuilles. La trilogie américaine, voilà, ça commence par Anthracite, qui est paru en 2004. Nous ne sommes rien, soyons tout. Non, il s'arrête au tout, qui est sorti lui aussi en 2000. Il est sorti en 2008 en français. Et Briseur de grève, en anglais était One Big Union. En italien était One Big Union, qui est sorti en 2020 celui-ci. Donc je pense que c'est le tout dernier qui a été traduit.
Et c'est aussi à la Volte.
C'est chez Payot et Rivage.
Ah ben voilà.
Voilà.
Ah ben retour chez Rivage. Tiens.
Comme quoi. Et assez justifié parce que c'est vraiment de très bonnes tenues. C'est autant le reste est bien, mais c'était vraiment un grand retour, je trouve. Voilà.
Très bien. Ben voilà, on a beaucoup parlé de Valerio Evangelisti, mais je pense que le sujet le méritait tout à fait. Et peut-être qu'on en reparlera une fois qu'on aura mis la main sur, par exemple, notre correspondant italien, qui aura peut-être d'autres choses à nous raconter sur le sujet. On fait une brève pause musicale avant de passer à d'autres sujets.
La Rosalia. Rosa, sin tarjeta, se lo mando a tu gata, te la tengo. Con roleta, no hizo falta serenata. Salgo yo una balacera, me he visto de cualquier manera. En Nueva York visitando a mis joyeros, solo quiere que yo le doy mi dinero. Patina aquí, chicken teriyaki. Tu gata quiere maqui, mi gata en Kawasaki. Quiero una cadena que me arruine toda la cuenta, como Naomi en los 90. Rosa, sin tarjeta, se la mando a tu gata. Te la tengo con roleta, no hizo falta serenata. Patina aquí, chicken teriyaki. Patina aquí, chicken teriyaki. Patina aquí, chicken teriyaki. Tu gata quiere maqui, mi gata en Kawasaki. Quiero una cadena que me arruine toda la cuenta, como Julio en los 70.
Patina aquí, chicken teriyaki.
Un billete, dos billetes, una tienda de billetes. La más dura que le mete. En Nueva York patinando pa' los highs. Tu amigo me sabe la que hay, hey. Y si la fama es una condena, pero dime hasta que te pague la cena. Me estás tirando sombras como drag queen, chula como Mike Dean. Rosa, sin tarjeta, se la mando a tu gata. Te la tengo con roleta, no hizo falta serenata. De azúcar la mami todo sin recibo. Leo pentagrama pero no lo escribo. Desde Queens hasta Tribeca, un ramo de flores azules no se seca. Patina aquí, chicken teriyaki. Patina aquí, chicken teriyaki. Patina aquí, chicken teriyaki. Tu gata quiere maqui, mi gata en Kawasaki.
Benoît, vous êtes client de ce genre de choses ?
Ah oui. Pas forcément le chicken teriyaki lui-même, mais le morceau, lui.
Rosalia, donc, la chanteuse catalane. Comme Nicolas Emmerich.
Mmh. Voilà. Tout est dans tout.
Tout est dans tout. C'était un extrait du dernier album. Et album où on la voit sur la pochette se transformer en une sorte de créature sylvestre, on va dire, avec des bois. Des bois comme sur les cerfs, sur la tête. Et oui, assez, transformation assez étrange. Une pochette assez réussie d'ailleurs. Et un album totalement magnifique. Voilà, pas forcément ce qu'on entend le plus souvent sur cette antenne, mais en fait, on aime bien quand même. On aime même vraiment beaucoup. Donc voilà, c'était Rosalia. On va encore parler de deux, trois autres choses dans cette émission, et notamment d'un livre de Enrique Villamatas. Et là, on est vraiment dans les livres qui sont sur les tables de littérature générale, pas du tout de littérature de genre. Et effectivement, on est très fort sur la limite quand même. Donc ça s'appelle Mac et son contretemps. C'est un des derniers. Il vient de paraître en poche il y a un mois ou deux, dans la collection Titres, chez Christian Bourgois. Ça nous raconte donc l'histoire de quelqu'un qui écrit son journal.
Ok.
Alors d'abord, il écrit son journal en nous donnant quelques détails sur le fait qu'il est un entrepreneur qui a récemment perdu son travail suite à des problèmes d'argent, etc. Mais il nous apprendra plus tard que c'est faux. En fait, il ment dans son journal pour des raisons diverses. Et en fait, on ne fera jamais énormément confiance à ce qu'il raconte dans son journal. Alors, c'est une sorte d'apprentissage littéraire. Il veut écrire pour apprendre à écrire, en quelque sorte. Et il veut que ça soit un journal et pas un roman. Mais petit à petit, le fait d'écrire un journal va l'amener à avoir une vie de plus en plus romanesque. Et donc, son journal ressemblera quand même à un roman, ce qui l'embête un petit peu. Et puis, en fait, les rapports vont devenir de plus en plus complexes entre la vie réelle et l'écriture. Puisqu'il va notamment... Enfin, il y a vraiment plein de tiroirs. Hein. C'est une construction assez complexe, mais quand même, on va dire le thème général, c'est qu'il a un voisin qu'il n'aime pas beaucoup, qui est romancier, qui a écrit il y a une trentaine d'années un recueil de nouvelles dont il dit qu'en fait, il est très mauvais. Et son idée, c'est de réécrire, en quelque sorte, de copier ce livre, ce recueil de nouvelles, dans une démarche un peu borghésienne, comme ça.
Je pensais à ça, oui.
Parfois se dire qu'il va écrire exactement la même chose ou faire les changements qui s'imposent selon lui.
Corriger.
Et en fait, il a vraiment une obsession pour les thèmes de la répétition, de la copie. Copie de texte, mais ça va être aussi de la répétition entre la vie et la fiction, entre la vie et l'écrit, puisqu'il va commencer à y avoir des influences entre ce qu'il écrit dans son journal et ce qui lui arrive. C'est-à-dire, il écrit des choses qui lui arrivent après. Sauf qu'en fait, pas tout à fait. On a un peu l'impression qu'il essaye de s'en convaincre. Il a cette tendance-là qu'on repère assez rapidement au début, puisque au début de son journal, chaque jour, il lit l'horoscope, mais à la fin de la journée, pour constater à quel point l'horoscope était juste. Donc voilà, on est dans ce genre de rapport-là entre l'écrit et la vie, avec de très multiples références littéraires. Je ne vais pas toutes vous les citer, mais une qui revient à plusieurs reprises, c'est évidemment Philippe K. Dick. La première fois qu'il en parle, il fait référence à, je sais plus comment s'appelle ce truc en français, mais donc c'est The Adjustment Bureau. Il y a eu un film qui tirait de cette nouvelle. Donc c'est une histoire où il y a une sorte de bureau de contrôle qui vient corriger la vie des gens si elle correspond pas à ce qui était écrit, et donc les forcer à vivre ce qui était bien prévu. Et donc la première fois, il fait référence à ça presque comme une sorte de jeu littéraire par rapport à ce qu'il est en train de vivre. Il constate des trucs qui l'amusent, des coïncidences qui l'amusent entre ce qu'il écrit et ce qu'il vit. Et donc il dit, c'est presque comme dans le texte de Dick, comme si un bureau de contrôle venait contrôler ma vie, venait réajuster ma vie. Sauf qu'après, il continue de faire référence à ce bureau, mais de plus en plus au premier degré, comme s'il était en train de tout à fait tomber dans cette spirale qui va continuer d'agir sur lui jusqu'à la fin du livre. Et donc on est dans un truc, on peut pas vraiment dire que ça soit du fantastique ou de la science-fiction, quoique on est quand même dans quelque chose qui est très limite. Donc je me suis dit, ça pouvait tout à fait rentrer ici. C'est un livre assez amusant quand même, et donc voilà, un écrivain pas tout à fait de genre à éventuellement explorer aussi. Une œuvre très très multiple, hein. Enrique Villamatas. C'est le premier que je lis, donc je ne vais pas faire semblant d'être un expert, mais il y en a plein d'autres, donc je vais pouvoir continuer à explorer. Enrique Villamatas, donc Mac et son contretemps, c'est chez Titres, au format poche. Il nous reste encore quelques minutes, en fait, assez confortables pour éventuellement évoquer Kim Stanley Robinson.
Oui, on peut faire ça, effectivement. Kim Stanley Robinson, je pense qu'on en a beaucoup parlé dans cette émission.
Mais très souvent, tu mets Sarah et moi dans la même pièce et on parle de Kim Stanley Robinson. Oui, c'est comme ça.
Et moi, je débarque comme un idiot avec un en plus.
Ouais, alors, on peut tout de suite signaler qu'il y en a un qui vient de paraître en français.
Oui,
qui n'est pas celui dont tu vas parler, non, c'est La Lune Rouge, qui est un de ses derniers romans.
Tout à fait, qui vient d'être traduit. Et celui-ci est celui juste après, quelque chose comme ça, Red Moon, The Mystery of the Future. C'est celui juste après, donc, qui est donc sorti, lui, c'est en 2020, en anglais, et qui s'appelle The Ministry for the Future. Donc, ça ne devrait pas trop tarder en français également. The Ministry for the Future. Et en fait, c'était intéressant d'en parler maintenant, parce que on parlait de la réalité qui ressemble à la littérature. Ici, on a un cas de plus, puisque tout à l'heure, je lisais dans la presse que, pour l'instant, sévit dans le sous-continent indien, au Pakistan, en Inde, etc., une énorme vague de chaleur assez meurtrière. Résultat assez probable, mais plus que évident, du changement climatique. Et en fait, le livre écrit en 2020, commence avec une énorme vague de chaleur en Inde, où un des protagonistes va se retrouver enfermé dans une région complètement inondée de soleil, une région qui se dessèche, et une région entière de l'Inde, dont il va être le seul survivant. Il sera la seule personne qu'on va retrouver un petit peu vivant, un truc. Et évidemment, le personnage va se retrouver assez traumatisé par l'événement, culpabilisé comme on l'imagine, et également désireux de changer tout ça et de lutter contre le réchauffement climatique, etc. C'est pas la première fois que Kim Saline Robinson de ça.
Je pense que ça a été notre premier sujet dans La Vie électrique lors du premier épisode consacré à la climate fiction, où on a commencé en parlant de Kim Saline Robinson.
Voilà. Et il semble, mais là je suis moins l'expert que vous, que pour une fois il a un petit peu changé l'optique, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'après. On ne parle pas de post-apocalypse, on n'est pas dans la catastrophe, ni. On est, comme le titre l'indique, dans « et qu'est-ce qu'on peut encore faire maintenant ?» Et en fait, ce qui est assez fascinant avec le bouquin, c'est que c'est vraiment toute une liste de choses, de solutions, parfois idiotes, parfois très scientifiques, parfois très très politiques, parfois activistes et tout. Et on a vraiment un panel énorme où on va, outre les deux fils narratifs qui sont le personnage dont je viens de parler, qui est ce personnage, cet Américain perdu en Inde et sauvé de justesse, mais on a aussi en Suisse le ministère du futur et sa directrice qui est en train de chercher à trouver des idées, des solutions, etc. Et en fait, à côté de ça, on a un petit peu tout un panel qui est assez intéressant et qui m'intéressait moi parce que un truc qu'on oublie un petit peu, c'est la question de la violence dans l'histoire du climat et du fait qu'en fait, il y a assez peu d'opposition violente, terroriste, aux causes du changement climatique. Et ici, le bouquin, par contre, rentre à fond dedans avec des propositions du genre on repérait quelles sont les sociétés internationales les plus criminelles et qu'on faisait la justice nous-mêmes, ça pourrait un petit peu aider les choses. On a un mouvement terroriste qui se monte pour faire des actions violentes, des actions terroristes, faire sauter des ponts pétroliers, faire toute une série de choses comme ça. Et donc on a cette version là, la version violente. On a la version plus politique, on va essayer de négocier avec les banques, négocier avec les gouvernements, etc., qui est la version du ministère du futur. Et on a une espèce de un peu un retour aux sources de Kim Stanley Robinson, qui est toute une série de solutions scientifiques qui passent par une forme de terraformage, où on imagine comment sauver les glaciers. Et par exemple, on peut essayer de puiser l'eau qui est tout au fond, la retaper au-dessus, attendre qu'elle gèle, attendre qu'elle recoule, etc. Et au bout d'un certain temps, on devrait limiter la montée des eaux conséquente à la fonte des glaciers, etc. C'est le passage est excessivement technique et assez complexe, mais voilà, on a toute une série de solutions scientifiques assez, assez complexes, assez énormes, et on est presque sur Mars à vouloir qu'est-ce qu'on peut faire pour changer cette planète pour qu'elle refonctionne. Très bizarrement, comme dans la vraie vie, la seule, une des rares solution, qui est le moins envisagée, c'est réduire la pollution, réduire la consommation, réduire le truc. Donc il y a toutes les variantes les plus poétiques, les plus politiques, les plus violentes, les plus terroristes, les plus etc. Mais voilà. Et c'est bourré de petits chapitres comme ça avec. Des éléments qui parlent. Je suis un photon. Voilà, ça peut sembler un peu un peu cringe comme ça, un peu difficile à avaler, mais ça marche très souvent.
Ça reste quelque chose qui continue d'assumer. Hein, le fait de, il a vraiment tout ce discours autour de des passages informatifs dans les romans qu'il considère comme complètement idiot de vouloir dissimuler. De vouloir les faire passer en douce. Donc lui, il les met en avant, vraiment, frontalement, avec des formes littéraires qui sont parfois intéressantes aussi, parce qu'il ne les met pas tous en avant de la même façon. Il peut y avoir parfois des petites expérimentations sur la façon dont il écrit ces passages informatifs.
Mmh, ici, on a vraiment un mélange de genres, où on a des conversations, des mémos, des rapports scientifiques, des rapports de discussions bancaires. On a des personnages qui apparaissent une seule fois pour raconter leur vie, et puis c'est tout, et ça dure 3 pages, et puis c'est fini. On a, comme je disais, des éléments, on a les photons, on a la Terre, on a le Soleil, je ne sais plus, toute la liste de ce qui intervient, et chaque fois avec une voix différente. Et effectivement, quand on parle science, ou quand on parle politique, ou quand on parle histoire, comment est-ce qu'on en est arrivé là, là on a vraiment un bouquin, c'est un essai. On passe au format essai, et on a l'histoire du capitalisme en 15 pages, suivi de l'histoire du monde bancaire en 15 autres pages. Et chaque fois, excessivement bien résumé, ce qui en fait un bouquin qui est non seulement plaisant à lire comme livre, mais assez instructif en fait, sans que ce soit rébarbatif. Voilà. Donc, The Ministry of the Future.
For the Future.
For the Future, effectivement.
Kim Stanley Robinson en paperback en anglais, bientôt en français certainement, et puis si vous ne lisez qu'en français, y en a un autre qui vient de paraître, qui s'appelle La Lune Rouge, et puis plein d'autres qui existent et qui sont disponibles, si vous voulez. Explorer l'œuvre de Kim Stanley Robinson, on vous renvoie aussi à nos émissions précédentes.
Voilà, c'est pas mal comme...
et bon, sinon, moi, je voulais aussi vous parler de Moon Knight, la nouvelle série Marvel, mais on va plus avoir le temps, et vous dire qu'en fait, elle est bien.
Carrément. Mais ça raconte quoi? Qu'est-ce que c'est? En deux mots.
En deux mots, c'est un personnage qui est utilisé par une divinité de l'ancienne Égypte pour être son avatar et rendre la justice à sa place. Mais par ailleurs, en plus d'être habité par cette divinité égyptienne, il est aussi habité par deux personnages différents. Et donc, en fait, il switch d'une personnalité à l'autre, et il y en a qu'un qui est au courant de ce qui se passe. L'autre, au départ, il travaille à la boutique du musée. Il sait pas ce qui lui arrive. Il a des problèmes de sommeil quand même.
Le tripolaire.
Voilà. Ça, c'est le début de l'histoire. Après, ça devient un peu plus complexe, et on part au Caire, et on a des aventures qui sont absolument dignes d'Indiana Jones. Et plus au quatrième épisode, on a un tour d'écrou. On était en train de se dire, tiens, mais ils font pas grand chose avec cette double personnalité, et là, ça devient d'un coup assez bizarre. Bon, on en reparlera une prochaine fois, ce qui aura permis aussi de voir les deux derniers épisodes et de savoir si ça reste bien ou si ça devient complètement n'importe quoi à la fin. Ce sera donc pour la suite, rôle principal tenu par l'excellent Oscar Isaac, qui a l'occasion de jouer beaucoup plus de choses, forcément, puisqu'il fait déjà deux personnages, que par exemple dans Star Wars, à tout hasard, ou dans Dune, où on l'avait vu aussi récemment. Bref, voilà. Ce sera pour la prochaine fois, peut-être. On se quitte en écoutant de la musique sud-africaine. Vous voyez le bubblegum, la pop bubblegum qu'on a peu entendu ici à l'époque, puisque c'était l'époque du boycott. Hein. Là, on est vraiment sur la fin du bubblegum, au moment où ça commence à être influencé par la techno de Détroit, et où ça prend une direction plus futuriste. C'est une réédition récente, le groupe s'appelle Jivaro, et le morceau What Next. On se retrouve dans 15 jours. À bientôt.
À bientôt.
Looking at it for the past few years, but things go so slowly. There is potential.
Chances beyond the power, trying to leave our way.